Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. En cette pré-rentrée masquée et covidée, le ministre de l'Éducation nationale promet des hausses de salaire pour les enseignants. 400 millions d'euros seront mobilisés, mais qui sera vraiment concerné? La FSU nous explique qu'elle regrette une ambition revue à la baisse dans un instant. Dans ce journal aussi, nous vous raconterons l'histoire de l'espionnage entre Moscou et Paris. Un espion franco-russe a été mis en examen pour avoir transmis des documents à la Russie. La Russie toujours pointée du doigt pour la façon dont elle traite par ailleurs ses opposants. Alors qu'Alexei Navalny est toujours dans le coma, soigné en Allemagne pour un empoisonnement, notre correspondant à Moscou a interrogé d'autres opposants. Leur quotidien, vous l'entendrez, est fait de peur et de suspicion. Mais d'abord ce vol que l'on peut qualifier d'historique. Tel Aviv, Abu Dhabi. Pour la première fois ce matin, un vol civil va rallier Israël aux Émirats Arabes Unis, 18 jours après que les deux pays aient annoncé la normalisation de leurs relations. Le symbole est beau, évidemment, mais ce vol commercial n'est pas ouvert au grand public. Il va en fait transporter les délégations israéliennes et américaines. Elles sont censées finaliser l'accord entre Israël et les Émirats, Frédéric Mettezo.
Le vol 971 de la compagnie israélienne El Al, avec une étoile de David et le mot « paix » écrit en arabe et en hébreu sur la carlingue, partira de Tel Aviv et survolera l'Arabie Saoudite, ce qui est aussi une première. Mais il ne transportera que des journalistes et des hautes personnalités comme Jared Kushner, le gendre et conseiller spécial de Donald Trump, avec des diplomates et conseillers américains et israéliens très haut placés. Avec les Émiratis, ils parleront diplomatie, visa, commerce, finance, tourisme, santé, avec la lutte contre le coronavirus, et défense. Ce dernier point est le plus délicat car les États-Unis veulent vendre des avions de chasse F-35 aux Émirats et ça ne plaît pas en Israël, qui souhaite conserver son monopole au Moyen-Orient sur ce matériel de pointe américain. Cette polémique a déjà entraîné l'annulation d'une réunion tripartite à New York il y a 10 jours. Derrière la belle image d'un avion civil, les avions militaires vont compliquer les discussions.
Ironie de la situation. Tous les vols commerciaux d'El Al sont annulés depuis qu'a éclaté l'épidémie de nouveau coronavirus dans le monde. Un repreneur pourrait racheter cette compagnie en grande difficulté. Reprise potentielle cette semaine. Le ministre français de l'Éducation nationale veut un Grenelle des professeurs. Jean-Michel Blanquer l'a dit hier. Il souhaite revaloriser le salaire des enseignants et leurs conditions de travail d'ici à 2021. Et il précise l'enveloppe qui sera dégagée pour cela. 400 millions d'euros et non plus 500 millions comme initialement évoqué. L'ambition est donc revue à la baisse. Ces aides ne pourront concerner qu'une seule partie des professeurs. Voilà ce que dit ce matin Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES.
On s'est évidemment rapporté à 800 000 enseignants, les autres personnels étant d'ailleurs oubliés. Ça ferait très peu, donc il est évident qu'ils souhaitent sans doute se concentrer au départ sur les débutants, les jeunes enseignants dont les salaires sont particulièrement faibles. Le tout est de voir s'il s'agit d'une mesure qui est suivie d'autres, si encore une fois on arrive à constituer, alors pour le coup, une vraie programmation pluriannuelle.
D'autant qu'on le sait, on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins de postulants au concours à cause de ces salaires qui, justement, font partie des plus bas d'Europe.
Oui, on sait que les salaires, y compris pour les débuts de carrière, mais y compris après 15 ans de carrière, sont parmi les plus faibles d'Europe. Ça contribue évidemment à la désaffection vis-à-vis du métier, notamment dans des disciplines où avec un master, vous pouvez trouver des emplois bien mieux payés.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi, et c'est dans ce contexte que se déroule aujourd'hui la pré-rentrée pour les 800 000 enseignants en France. Une rentrée masquée, excepté toutefois auprès des tout-petits. Le port du masque dans les crèches, chez les assistantes maternelles et pour la garde de petits-enfants à domicile ne sera pas encore obligatoire en présence des enfants. C'est ce que disait hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le masque aussi pour tous les salariés en entreprise, obligatoire là à partir de demain. Même si certaines activités professionnelles sont difficilement compatibles avec le port du masque, la ministre du Travail en a convenu hier. Elisabeth Borne toutefois ne cite pas encore toutes les professions qui pourraient bénéficier de dérogations. Les partenaires sociaux doivent évoquer ce protocole sanitaire en entreprise aujourd'hui avec le ministère du Travail. Un champion mondial de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Voilà ce que souhaite créer Veolia. Celui qui est déjà géant du traitement de l'eau et des déchets veut intégrer son concurrent, Suez. Veolia a donc remis hier à Engie, le grand actionnaire de Suez. Veolia lui a remis une offre ferme à hauteur de 2,9 milliards d'euros. Cette offre concerne près de 29% de Suez. Venons-en maintenant à ces soupçons d'espionnage. Un officier français basé à l'OTAN en Italie est soupçonné d'avoir livré des documents ultra sensibles à la Russie. Mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère, il a été écroué il y a 10 jours à Paris et nous l'avons appris hier. Les affaires de ce genre révélées au grand public sont assez rares, mais l'espionnage est une activité permanente entre puissances rivales, Bertrand Galichet.
L'espionnage militaire n'a pas vraiment changé depuis la fin de la guerre froide et la Russie a des raisons particulières de s'intéresser au commandement de l'OTAN en Italie. C'est ce qu'observe le journaliste Jean-Marc Tanguy, spécialiste des questions de défense.
Les services de renseignement sont là pour renseigner. Il faut en fait avoir des capteurs qui sont placés aux bons endroits. Ça peut être en haut d'une pyramide militaire, ça peut être aussi aux échelons intermédiaires. On n'est pas du tout surpris que la Russie, qui se sent régulièrement menacée par l'OTAN, cherche à avoir des renseignements. Et dans un état-major de ce type-là, on manie toutes sortes de renseignements sur une zone qui est en général plutôt celle du flanc sud de l'OTAN, notamment la Méditerranée. La Russie est très implantée en Syrie avec des moyens militaires importants. Elle regarde évidemment depuis plusieurs années les rapports qui se délitent entre l'OTAN et la Turquie.
Une affaire particulièrement embarrassante pour Paris, quelle que soit l'importance des informations divulguées aux Russes, déjà stigmatisées pour avoir mis en cause le fonctionnement de l'OTAN, considérée en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron, la France risque de perdre en crédibilité vis-à-vis de ses partenaires au moment où l'Alliance Atlantique traverse une crise existentielle.
La France encore qui intervient au Liban et qui semble avoir été entendue. À la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron dans le pays, le président libanais Michel Aoun admet la nécessité de changer de système politique. Il appelle à proclamer un état civil. Quelques heures plus tôt hier, c'est le chef du puissant Hezbollah pro-iranien qui avait annoncé être lui aussi prêt à discuter d'un nouveau pacte politique libanais. Emmanuel Macron, qui presse pour des réformes dans le pays, est attendu ce soir au Liban, 4 semaines, je vous le rappelle, après la double explosion qui avait ravagé la capitale Beyrouth. Nous reparlerons des enjeux politiques au Liban avec Julie Gacon dans les enjeux internationaux et avec son invité Jean-Pierre Filiu à partir de 6h45, dans moins d'un quart d'heure. Sachez d'ici là que plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont encore rassemblés hier en Biélorussie à Minsk pour le 3e week-end de suite. Ils réclament toujours le départ d'Alexandre Loukachenko qui est une fois encore apparu hier armé en entrant dans sa résidence. Loukachenko a fêté son 66e anniversaire hier. L'occasion pour son homologue russe Vladimir Poutine de l'appeler par téléphone et de l'inviter à Moscou. Signe peut-être du soutien que veut encore apporter le Kremlin au président. Dans Bélarus. Moscou encore qui a finalement lancé une enquête au niveau local pour déterminer les causes de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, opposant au régime. Pas de quoi pourtant rassurer l'opposition russe qui est régulièrement sous pression. Les militants se protègent comme ils peuvent. Claude Brouillot a réussi à en rencontrer certains et il nous raconte.
Un seul gardien filtre les entrées au siège du parti d'opposition Yabloko. Son jeune président, Nikolaï Rybakov, reçoit dans son bureau sans aucune protection, mais tout change lorsqu'il se déplace en région.
Les règles essentielles à respecter que je peux citer sont les suivantes. Savoir où tu loges pendant ton déplacement, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, avec qui tu voyages. Tu dois bien sûr respecter toutes ces règles, mais il peut y avoir des situations qu'on ne peut pas exclure. Ce n'est pas possible.
Tous les activistes, comme on les appelle, de l'opposition russe en dehors du système ne sont pas exposés comme peut l'être Alexeï Navalny par exemple. Mais beaucoup, comme Nastia, qui ne souhaite pas donner de détails sur sa situation, ont du mal à s'habituer aux risques qu'ils encourent.
Parfois, oui, je m'inquiète. Je pense à ma sécurité, je pense à la sécurité de mes amis. Ça me fait un peu peur, mais après, je ne suis pas surprise en fait. On voit bien qu'Alexei, c'est quelqu'un qui prend le risque. Ça ne fait pas peur aux gens, ça les rend plus fâchés. C'est un peu scandaleux, oui, de faire ça.
Nastia dit aussi qu'elle souhaite qu'Alexeï Navalny se rétablisse. Dans le cas contraire, des réactions d'opposants dans la rue ne sont pas exclues.
C'est C'était Claude Bruyot, notre correspondant à Moscou pour France Culture. Les averses en France métropolitaine aujourd'hui touchent l'est du pays, laissant un ciel humide de l'Auvergne jusqu'à l'Alsace, en PACA même ce matin. Ailleurs, prévoyez de belles éclaircies et des températures légèrement en dessous des normales de saison. Ce matin, il fait 11 degrés à Rennes, 13 à Paris, Lille et Strasbourg, 14 degrés à Bordeaux, 16 à Lyon, 19 degrés à Marseille. Il fera cet après-midi entre 18 et 25 degrés du nord au sud.